Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus Paris, il est 20h, dans un instant, c'est grand format.
Radio Campus Paris, grand format.
Quel serait l'état du cinéma français actuel sans Henri Langlois, ce passionné de cinéma, fondateur de la Cinémathèque française, a œuvré toute sa vie à la préservation, la conservation et la restauration de films. Il a sauvé de la destruction de nombreuses œuvres de cinéma, notamment pendant la guerre, et a permis la mise en place de cette institution qu'est la Cinémathèque et qui œuvre chaque jour à préserver la mémoire cinématographique. Ce n'est pas pour rien si l'on nomme des cinéastes comme Godard, Truffaut, Chabrol, René, enfants de la Cinémathèque, c'est parce qu'ils ont été nourris par le cinéma conservé par Langlois. Cinéastes ont fait du cinéma parce qu'ils ont vu du cinéma, parce qu'il leur a été rendu accessible. Au début du 7e art, on a détruit des pellicules entières pour les recycler en récupérant les sels d'argent qu'elles contenaient. Le cinéma était éphémère, un film vivait peu. C'est en partie Langlois qui a impulsé en France cette mécanique de conservation du patrimoine cinématographique, parce qu'un art évolue en connaissant son histoire, parce que les créateurs s'inspirent de leurs aînés. Conserver, restaurer et surtout montrer dans un film est essentiel. Bonsoir Christelle Bonne, vous êtes responsable de la restauration image chez Lobster Film.
Oui, pourquoi ?
Merci d'être avec nous dans Grand Format. Et bonsoir Luc qui est également avec
salut
nous.
Théo.
De quoi tu nous parles ce soir ?
Parler peu, mais je vais vous faire écouter un blind test. C'est peut-être l'un des plus compliqués de l'histoire des blind tests.
Ah super, grosse pression pour nous et pour tout le monde. Bonsoir Romane, même question, de quoi tu nous parles ce soir ?
Je vais vous parler des films de l'enfance.
Très bien.
Oh.
Christelle, donc je disais tout à l'heure, vous êtes responsable de la restauration image des films chez Lobster Film, qui est une société qui restaure et édite des DVD. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler de cette société, de ce que vous y faites ?
Lobster, c'est une société qui existe depuis plus de 30 ans, qui à la base part d'une grande collection de films avec deux personnes, Serge Bombert et Eric Lange, qui ont monté cette collection ensemble. Et puis c'est une collection qui a grossi, et puis aujourd'hui il y a clairement un service de restauration qui en fait partie. On édite du coup des DVD et la collection est conséquente. Je ne sais même pas exactement combien de bobines et de films ça concerne, mais c'est très gros.
Donc, c'est-à-dire qu'ils ont rassemblé du matériel filmique,
ouais.
Et après donc, le but maintenant c'est d'en faire quelque chose et de le proposer
c'est
à un
ça.
Public.
En fait, le but premier d'avoir créé un service de restauration au sein de Lobster, c'était vraiment de valoriser la collection Lobster Film. Moi, du coup, ça fait 6 ans que je suis là, un peu plus de 6 ans. Et au départ, c'était vraiment Eric Lange lui-même qui restaurait beaucoup. Et maintenant, on est 8 à la restauration avec une vraie équipe en permanence qui travaille principalement sur la collection Lobster. Mais ça arrive qu'on fasse des collaborations avec d'autres institutions.
D'accord. Donc, du coup, ce qui précède chez Lobster, la restauration d'un film, c'est soit la collection, soit une commande. Comment, qui choisit et qui dit à un moment, ce film-là mérite d'être restauré, d'être montré au public sous une nouvelle forme?
Alors vraiment, dans pratiquement tous les cas, c'est un film de la collection qu'on aimerait voir restauré grâce à l'aide du CNC, où on a des subventions en fait, pour pouvoir restaurer des films dont on doit défendre l'intérêt du patrimonial, etc. On peut lancer des projets de restauration qui sont très très coûteux et très longs, quoi. Donc ça part toujours de notre collection Lobster. Et ensuite, c'est arrivé pour certains films que ce soit vraiment une question de timing, quoi. Une institution qui aimerait restaurer quelque chose, pour X raisons, parce qu'on a du matériel sur ce film, on va peut-être acheter les droits d'un autre film, d'un autre élément, pardon, et puis du coup lancer un projet un petit peu à part.
Parce que vous parlez des droits, parce qu'il y a deux choses séparées, c'est-à-dire le matériel filmique en lui-même qui est l'objet de la collection, mais après il faut avoir les droits pour diffuser ce film, pour l'éditer. Comment ça se passe? Il y a un service aussi chez Lobster qui s'arrange pour rechercher les droits. C'est compliqué de trouver les ayants droit d'auteurs qui sont décédés souvent.
Très très compliqué. Souvent les ayants droit c'est la famille, puis parfois on ne sait pas qui c'est, ça demande des procédures juridiques très longues. L'avantage c'est que du coup, nous on travaille beaucoup sur du muet, et du film très très, vraiment du film des premiers temps. Et donc très souvent, les droits de diffusion tombent dans le domaine public.
C'est 70 ans après la mort de l'auteur, non, c'est ça ou...
Ouais, on sent que c'est un peu plus.
Un peu plus peut-être, ouais.
Mais c'est, oui, c'est... Du coup, là, on a quand même une grosse partie du cinéma muet qui commence. Chaque année, il y a plus de films qui du coup, tombent dans le domaine public. Et ça nous permet du coup déjà de savoir qu'on peut diffuser des films. En revanche, pour avoir le matériel, ça c'est... Le matériel appartient à quelqu'un toujours, donc il faut se...
J'imagine qu'une fois qu'on a choisi de restaurer un film, il y a un travail d'études techniques, de chercher du matériel filmique. Est-ce que le film chez Lobster, la collection suffit, ou parce que parfois il va falloir aller chercher un positif, un négatif à droite à gauche pour réassembler tout ça, parce que j'imagine qu'il y a des morceaux de pellicule qui sont peut-être détériorés, qu'il faut aller trouver ailleurs.
Ouais, ça c'est vraiment le plus gros du travail en fait, de la restauration qui est fait en amont. Ça suffit rarement. En général, on a des éléments, mais on a rarement tous les éléments à Lobster. Et puis surtout, c'est aussi super important de savoir s'il n'y a pas de meilleurs éléments ailleurs quand on se lance dans une restauration, parce que vraiment, tout le travail de la restauration commence avec trouver le meilleur élément possible d'un film. Donc dans le meilleur des cas, on a le négatif original qu'on retrouve.
Ce qui est la meilleure copie possible.
C'est ça. Dans beaucoup de cas, il est déjà détruit, donc on se contente d'éléments plus récents, mais du coup, un négatif original, par exemple, c'est pas suffisant parce qu'on n'a pas d'idée de comment le film a été étalonné à l'époque.
Ouais,
etc.
Comment il a été tiré photochimiquement, etc.
C'est le meilleur élément, mais c'est pas forcément la meilleure chose d'avoir uniquement le négatif original. En général, le mieux, c'est d'avoir une copie d'exploitation de l'époque qui nous permet de savoir comment les gens l'ont vu à l'époque, parce que c'est ce qu'on cherche à reproduire.
Et une fois que le matériel est réuni, il y a aussi la question du respect de l'œuvre originale, donc d'essayer de trouver peut-être aussi quelles ont été les modifications sur la pellicule qui ne sont pas du fait de l'auteur. Alors je pense à une intervention de Georges Mourier à la Cinémathèque qui parle de ça très bien. Lui, il pilote la restauration du Napoléon d'Abel Gance, et c'était à la Cinémathèque française en 2018. On l'écoute.
Nous prenons n'importe quelle colure dans une copie positive. Bien. Alors nous sommes confrontés à la question suivante. Qui a fait cette colure positive ? Est-ce que c'est Abel Gance en 1927 dans sa version opéra ? Est-ce que c'est Abel Gance dans sa version Apollo, toujours en 1927 ? Est-ce que c'est Abel Gance dans sa première version sonore de 1935 ? Est-ce que c'est Abel Gance dans sa seconde version sonore de 1971 ? Et avant même de répondre à cette question, nous avons d'autres questions qui se posent, parce que cette même colure peut avoir été faite par Marie Epstein et Henri Langlois entre 53 et 59, par Kevin Brunelot entre 69 et 82, par Kevin Brunelot à nouveau en 83, par Bambi Ballard en 92 ou encore par Kevin Brunelot en 2000. Et vous avez plusieurs milliers de colures. Donc, quand on dit dans les textes de la Cinémathèque française que la situation patrimoniale était des plus confuses, parce que là, je vous parle des colures officielles, mais ça se rajoute à toutes les destinées des films d'autrefois qui ont subi aussi des colures sauvages, des distributeurs, des censeurs, etc., toutes les colures accidentelles. Alors, du coup, bon, on va... Qui a fait quoi ? Et à partir de quel matériel ? Si vous ne pouvez pas, à chaque colure, dire, répondre à cette question, le film, patrimonialement parlant, il reste au fond de la tombe.
Cette précision dont parle Georges Mourier ici à propos des collages, de savoir quel est l'historique du matériel, qu'est-ce qui fait partie du film ou qui a été fait après, c'est essentiel dans ce travail de restauration, de comprendre la vie du film aussi.
Bah oui, c'est tout ce qu'on a comme témoignage en fait de ce que le film a subi et ce qui peut nous aiguiller sur est-ce que c'est vraiment ce que les gens ont vu dans une salle de cinéma à l'époque de la sortie du film, ce qu'on est en train de regarder ou pas du tout. Et oui, c'est très bien résumé. Et puis Napoléon, c'est vraiment un exemple improbable de restauration. C'est exactement ça. C'est vraiment un peu de l'archéologie, quoi. Et se poser des questions à tout moment.
Luc,
est-ce qu'on peut juste revenir sur le terme colure ? Oui. Je pense que peu de gens savent, et moi-même je ne sais pas du tout ce que ça veut dire.
Christelle, est-ce que vous pouvez expliquer
les colures, ça ? C'est en fait, si tu pars d'un montage, du montage original à l'époque, du coup tu tournais ton film, et puis quand tu faisais le montage, tu coupais dans la pellicule et tu collais un plan à un autre.
Okay.
Et du coup la colure, c'est ce qui correspond à cette petite partie de pellicule en surplus d'une image à l'autre, entre les deux plans, et qui est du coup à la colle. Faite à la colle à l'époque pour vraiment souder la pellicule à cet endroit. Et les colures, du coup, souvent, en fait, l'épaisseur, la forme des colures, la manière dont elles ont mal, plus ou moins bien vieilli, peuvent te donner des indications sur quelle année, qui aurait pu faire ça.
Ah ouais.
En gros, plus elles sont sales et grosses, et plus elles sont vieilles.
C'est l'archéologie.
Normalement, si tout le monde travaille bien.
Ouais.
Et Georges Moyet, dans cette même intervention, celle que nous avons écoutée, il disait que pour la restauration justement de Napoléon d'Abel Gance, son équipe allait jusqu'à étudier le tremblement de la pellicule sur les projecteurs de l'époque pour le restituer sur la copie restaurée. Donc
ouais.
C'est une précision énorme. Du coup, en fait, il va répliquer une limitation technique sur la copie numérique. À quel point il faut, selon vous, garder les imperfections ou au contraire effacer avec les moyens modernes tous ces petits artefacts? Où se situe la limite, quoi.
Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Je pense que ça va vraiment dépendre de l'éthique que chaque institution, chaque personne va vouloir apporter dans son travail de restauration. Selon moi, c'est-à-dire selon ce qu'on essaye de faire, c'est impossible à l'échelle où nous, on travaille sur une petite collection, où on est subventionné, mais où ça coûte tellement cher une restauration, on n'aurait pas le temps et le loisir de pouvoir se poser les questions sur chaque colure. Donc on essaie d'être le plus fidèle possible. Mais c'est vrai que pour des films très importants, où on a une grosse subvention et on a le temps et on a beaucoup, beaucoup d'éléments, parce que Napoléon, il y a énormément de non-films autour. Il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses. Donc ça permet vraiment ce travail. Parfois, on a juste une copie et on n'a aucune info sur rien. Et donc là, on va essayer d'être fidèle, mais avec le peu de choses qu'on a, quoi.
Et est-ce que vous allez aussi chercher justement, comme vous le disiez, des documents non filmiques, c'est-à-dire peut-être des interviews de l'époque, si ça existe, des articles de journaux? Il y a tout un travail de documentaliste qui, j'imagine, est très long et aussi très compliqué.
Ouais. On essaye de faire ça dans la mesure du possible. Il y a des films pour lesquels ça nous a énormément aidés. Et puis parfois, il y a vraiment très très peu de choses. Et en fait, ce qui est traître dans ce travail-là, c'est que parfois certains éléments vont nous faire croire quelque chose qui n'est pas le cas non plus, parce que je pense à, par exemple, c'est aussi le cas quand les réalisateurs sont encore vivants, enfin les réalisateurs encore vivants sur le muet, c'est plus vraiment possible, mais sur des films plus récents, ou même certaines personnes de l'équipe technique, très souvent c'est hyper utile et en même temps super problématique, parce qu'ils aimeraient changer le film qui était à l'époque avec ce qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque et les moyens de l'époque, et aujourd'hui tout est possible. Du coup, faut être rigoureux sur qu'est-ce qu'on fait quand on fait une restauration. Dans le cas où c'est quand c'est vraiment des films muets, etc., bah on essaye de faire le maximum avec ce qu'on a comme élément concret, tout ce que ça nous apporte comme information, on va dire.
Merci. Avant de vous recevoir ce soir, nous avons demandé un film sur lequel vous avez travaillé et nous avons choisi parmi votre liste Le Clair de Lune.
Le Clair de Terre.
Voilà, voilà. Je me fais avoir à chaque fois que je le dis. C'est un film de Guy Gilles. Luc, le pitch.
Si je devais résumer.
D'ailleurs, parlons du film. Il y a un scénario.
C'est pas simple, mais j'ai compris.
J'adore ça, le jingle de Benjamin, il a vraiment fait un bon taf. On s'écoute un petit extrait du film avant.
Brumeux Pierre. Question première. Quelles sont les choses auxquelles vous rêvez le plus? Par ordre de préférence.
L'harmonie. Partir. Ne plus être triste.
Bien. Petite recette pour ne pas être triste. Il faut, en toute chose, accepter la vie. Pensez à la douceur, la tendresse. Essayez de comprendre.
Oubliez ce souvenir.
Allez, venir, regarder, écouter.
Les rencontres.
La mer, les montagnes.
Les forêts, les fleurs, le silence.
Les chats, les enfants, les couleurs, les trains, les gâteaux, tout.
Alors, le film s'ouvre à Paris. Nous sommes dans les années 60 et on fait la connaissance de Pierre Brumeux, qui a 21 ou 22 ans, selon ce qu'il dit ou ce qu'il écrit. Il vit avec son père dans le Marais, son père qui est pied noir. Alors, pour les plus jeunes auditeurs, c'est ainsi qu'on appelait les Français d'origine algérienne avant l'époque de l'indépendance. Et je sais même pourquoi on les appelait les pieds noirs, si ça vous intéresse.
Vas-y, dis-nous tout.
Parce que c'était les chauffeurs des bateaux à vapeur qui se promenaient pieds nus dans les cales à charbon, ce qui fait que du coup, ils avaient les pieds noirs. Et ils étaient souvent d'origine algérienne, et c'est pour ça que... Bref, je continue. Pierre, au début du film, il décide de partir en fait, de Paris. Alors, on connaît pas tout de suite les raisons de son départ, ni la destination. Mais on le suit dans un premier temps durant sa dernière journée à Paris. Donc on le voit flâner dans les rues du 3e arrondissement, qui ont bien changé d'ailleurs. Voilà, on le voit capter des scènes de vie quotidienne plutôt banales, mais filmées de façon assez... Peut-être qu'on y reviendra, mais filmées de façon assez spéciale. Et après une dernière soirée morose passée dans un café, il part enfin. Donc il traverse la France en train, puis la Méditerranée en bateau. En chemin, on en apprend un petit peu plus sur lui. Donc en fait, il se rend en Tunisie parce que c'est là qu'il est né. C'est là également où sa mère est décédée peu de temps après sa naissance. Et donc, une fois rendu à Tunis, à la moitié du film, il va retrouver son ancienne institutrice avec qui il va se lier d'amitié. Et grâce à elle, en fait, il va découvrir sa terre natale, en fait, qu'il ne connaît pas. Enfin, en tout cas, il n'en a pas de souvenirs. Les souvenirs qu'il a, il se les a fait grâce à des photos et des cartes postales qu'on aperçoit d'ailleurs au début du film. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le scénario, parce que c'est vraiment... On peut peut-être commencer là-dessus. Pour moi, c'est vraiment un film sur l'errance, en fait. On a ce personnage qui est... Moi, il me fait beaucoup penser à un fantôme qui glisse comme ça dans les décors. On a l'impression que ce garçon, il est à sa place nulle part. Il est tout aussi détaché à Paris qu'il ne l'est à Tunis. Et il y a une forme de solitude et de mélancolie qui m'a pas mal touché, moi, à titre personnel.
Moi, cette solitude, cette mélancolie dont tu parles, je trouve qu'on la retrouve aussi vachement dans l'image. Moi, j'ai une copie qui n'était pas restaurée parce que j'avais pas encore la copie de Lobster. L'image, elle est assez peu piquée, elle tremble. On voit la poussière des zones surexposées. Et donc, le film, dans son récit, comme dans l'image, il a cette espèce de fragilité. D'ailleurs, je pense à ce que dit le chef opérateur Eric Gauthier, qu'il dit qu'il a toujours aimé les artefacts, les petites erreurs dans l'image. Comment, quand on restaure, on dose ce qu'on lisse, ce qu'on efface, ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde la petite poussière ou est-ce qu'il faut l'enlever? Parce que finalement, quand le spectateur regardait le film à l'époque, la poussière dans le projecteur, elle était bien là.
Ça, c'est pareil, c'est vraiment à discrétion de qui lance la restauration. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, les restaurations sont nickel. Quand on regarde même les Disney, il n'y a plus absolument une seule poussière.
Ouais.
Rien du tout, les couleurs sont même rehaussées. Enfin, il y a des choix en fait, de restauration qui sont toujours plus ou moins poussés. Nous, pour Lobster, on va toujours essayer de faire le mieux possible. Après, on ne va pas aller trop loin. On va toujours essayer de jamais être dans le destructif, quoi qu'on fasse. Donc, on va essayer de supprimer les défauts qui sont liés au temps et non pas juste à la caméra ou à des défauts que tout le monde aurait pu voir sur une copie, jusqu'à ce que ce soit destructif pour le film. Quand on n'arrive pas à retirer un défaut avec les moyens qu'on a aujourd'hui en 2020, on ne le fait pas. On préfère laisser un défaut que
d'allumer l'image telle qu'elle était. Ouais. C'est Philippe Rousselot qui a signé l'image du film dont on parle, donc le Clair de Terre de Guy Gilles. C'est un chef opérateur qui travaille encore aujourd'hui. C'était d'ailleurs son premier film. Est-ce que vous avez discuté avec lui ou même est-ce que de manière générale, vous, quand c'est possible, vous prenez contact avec des chefs opérateurs, des gens qui ont signé cette image pour travailler cette restauration-là?
Quand on a les moyens de le faire, c'est vraiment un super outil, quoi. Et comme je disais, pas forcément le réalisateur pour qui c'est son bébé et qu'il aimerait qu'il soit aussi parfait, voire plus parfait que ce qui est sorti à l'époque, mais souvent les techniciens ont un regard plus distant sur le film et du coup sont plus à même de se rappeler ce qui s'est vraiment fait à l'époque ou pas. Donc c'est souvent un super outil de faire ça. C'est très cool quand on peut avoir ce soutien-là. Après, pardon, tu...
Non, je voulais savoir si vous aviez discuté avec Philippe Rousselot pour ce film en particulier ou pas du tout.
J'avoue que je ne me souviens pas si on a eu directement le contact avec lui. Pour ça, en tout cas, l'avantage qu'on a eu sur les Guy Gilles, parce qu'on a sorti 3 films en même temps, du coup en DVD, vraiment il y a très peu de temps, c'est pour ça que tu n'as pas eu accès à la restauration. Pour ces films-là, on a eu du coup le négatif original, donc meilleure image, et des copies d'exploitation qui nous ont permis de vraiment savoir vers où aller pour l'étalonnage. Surtout que certains des films mélangent du noir et blanc et de la couleur, certains du sépia. Enfin, c'est très complexe de savoir quel rendu on avait exactement à l'époque, quoi.
Ça faisait d'ailleurs partie de vos premières restaurations couleur chez Lobster. Comment on appréhende ce changement? Parce que j'imagine qu'on ne travaille pas pareil en noir et blanc qu'en couleur.
Non, c'était du son et de l'image, ce qui est très rare puisqu'on fait souvent du muet. C'était très intéressant en fait, parce que du coup on fait l'étalonnage nous-mêmes et du coup je sais que la personne qui a fait l'étalonnage a vraiment s'est vraiment posé énormément de questions justement par rapport à ça, aussi parce que les copies d'époque qu'on a elles ont vieilli, donc potentiellement elles peuvent avoir viré un peu dans les couleurs. Donc ce qu'on veut, c'est retrouver un rouge d'époque mais pas forcément le rouge qui est présent aujourd'hui sur la copie d'époque. Et en plus, pour le cas par exemple des films où il y a eu du mélange noir et blanc couleur, en fait à l'époque c'était pas possible de faire un montage dans les copies d'exploitation. Du coup, ça a été shooté le film sur une pellicule couleur, ce qui fait que le noir et blanc n'était pas noir et blanc.
D'accord,
il était forcément un petit
blanc,
peu teinté parce que c'était pas une pellicule noir et blanc. Et ça, c'est pareil. Est-ce qu'on essaye de le faire ou est-ce que c'était juste les limites de l'époque qui faisaient que le film avait une petite teinte sur le noir et blanc? C'est des questions qu'on se pose en fait à chaque étape.
Chaque étape de la restauration.
Ouais. On parle beaucoup d'images, mais je me demandais au niveau du son aussi, parce qu'il y a non seulement une bande originale qui a été composée pour le film, mais il y a aussi pas mal de citations musicales. Quand vous restaurez un film comme ça, est-ce que vous posez aussi la question des droits musicaux en fait, par rapport aux œuvres qui sont utilisées dans le film ?
Alors moi je suis vraiment pour l'image, donc je ne peux pas te répondre au niveau des droits, mais en tout cas je suis sûre que ça se pose sans doute comme question. On a aussi au sein de Lobster un laboratoire spécialisé en restauration sonore, okay, qui s'appelle Le Diapason et qui s'occupe d'énormément de films et de restauration. Enfin, c'est un des meilleurs labos de restauration en France sonore. Et eux essayent vraiment de très fidèlement retrouver exactement comme nous pour l'image ce qu'on avait vraiment à l'époque. Et on restaure, mais on ne va pas non plus essayer de rendre le son plus incroyable qu'il n'a pu l'être. Okay.
Désolé pour la question.
Mais c'est intéressant comme question.
Okay. J'ai une question assez précise sur les génériques, parce que dans le film de Guy Gilles, la séquence d'ouverture, elle est hyper rythmé par le générique, c'est-à-dire qu'on a la séquence, c'est coupé, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses. Comment on restaure un générique ? Est-ce qu'on peut se permettre de recréer la typo en numérique, de la poser, ou alors est-ce qu'il faut détourer la typo ? Est-ce qu'on récupère les bandes titres séparées ? Comment ça se passe ? Parce que finalement, c'est quelque chose qui est incrusté dans l'image, mais qui ne fait pas vraiment partie de l'image.
Alors, exactement comme tout est possible aujourd'hui. Vraiment, avec des tonnes de logiciels, on pourrait tout refaire. En fait, on va le faire si vraiment ça nécessite, enfin, si vraiment l'état est catastrophique et que au niveau du regard du public, ça va vraiment poser problème visuellement, on va le refaire. Mais a priori, si on a une bonne copie, on peut se contenter de ce qui avait été fait à l'époque au niveau effet. Là, comme on est reparti du négatif original, dans les cas où on repart du négatif original, donc les titres ne sont pas incrustés, il est tout à fait possible, si on retrouve les bons titres, de recréer numériquement avec les bandes-titres, de restaurer les bandes-titres d'une part, de restaurer l'image d'une autre part et ensuite de les numériquement recréer. En revanche, on ne va peut-être pas aller au point où Georges Mourier va, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas essayer de recréer la petite fluctuation d'image.
Il
puisqu'on
a beaucoup de moyens et c'est un travail qu'il a fait sur des années. Je crois que ça fait peut-être 5, 6, 7 ans qu'il est dessus et c'est toujours pas fini.
C'est passionnant.
C'est passionnant et d'ailleurs, il y a ces interventions de la Cinémathèque qui sont sur le site de la Cinémathèque et à côté, moi j'ai tapé en direct,
incroyable.
C'est passionnant. Son travail est énorme, il en parle vraiment très très bien.
C'est un peu un fantasme pour un restaurateur parce que c'est si on avait les moyens infinis pour restaurer quelque chose et un temps incroyable jusqu'où on pourrait aller et c'est... des réflexions en permanence sur chaque détail.
Merci, on marque une courte pause musicale avec Cruelty, composée par John Carpenter, qui est aussi la bande originale de son deuxième film, Assouf. Voilà, Luc dit Carpenter, c'est pas foulé. Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours en compagnie de Christelle Bonne, responsable de la restauration des films chez Lobster Film. Christelle, on va à présent vous soumettre à l'incontournable blind test de Luc.
On passe au blind test.
Vous pouvez répéter la question. Oh putain, Ben, il a vraiment fait du bon boulot.
Il nous régale.
Bon, moi aussi je vais vous régaler. Pour ce blind test, je tenais à réhabiliter Tenet, qui a été un petit peu évoqué par-dessus la jambe à la dernière émission, n'est-ce pas Théo?
Ok.
Et tu avais notamment dit que tu n'avais pas aimé, que le film n'avait pas marché en salle.
J'étais déçu sur ce coup-là.
Ouais, moi j'ai bien aimé. Et donc en hommage à cet excellent film de l'année 2020, je vous ai préparé 3 extraits de films que j'ai passés à l'envers en fait.
Mais.
Et donc.
Ah. Non, mais c'est absolument impossible.
Non, vous allez voir. Alors, certes, la tâche va être un petit peu rude, mais j'ai préparé des indices. Je vais vous aider, vous inquiétez pas.
C'est facile à trouver.
Oui, alors le premier extrait, j'ai pris vraiment une scène culte, histoire de prendre un peu la température, voir si vous trouvez. On y va.
Titanic.
Oui. Ah.
Oui.
On laisse un peu quand même.
Ouais, bien sûr. Ça devient...
C'était le fameux I'm Flying à l'envers.
Ah, oui.
J'ai pas grand chose à dire sur Titanic, je ne l'ai jamais vu. Mais au vu de ce qui se passe à la fin, c'est peut-être plus raisonnable de le regarder à l'envers.
C'est vrai, c'est pas faux.
À l'endroit. Le deuxième extrait est un petit peu plus compliqué, mais il y a des indices, vous pourriez trouver.
Je vous connais. Un truc épique.
Épique,
non.
C'est le fait de mettre en vert, peut-être qu'il rend épique.
Ça se passe dans le milieu du jazz.
C'est la musique jazz à l'envers qui devient épique, c'est ça?
Ah, moi j'avais l'impression qu'on est dans du médiéval.
Okay. Non, pas du tout. C'est sorti en 2014.
Whiplash.
Oui.
Yes.
Ah ouais. Mais comment tu fais? Mais t'as le cerveau monte à l'envers. Quoi. C'est incroyable. Comment... C'était non,
le c'est jazz tout en 2014, hein. Je
oui,
pense
c'est
qu'il y a...
Ça, c'est plus ça.
C'est la culture qui est impressionnante.
Permettez que je parle pendant mon blind test. C'est comment? Parce que moi, j'ai préparé des notes quand même. Hein. Non, pas grand-chose, si ce n'est... moi, j'ai un souvenir, quand il est sorti en salle, il y avait ce phénomène assez étrange où à chaque fin de projection, les gens étaient à fond, applaudissaient, se levaient et tout. Je ne sais pas si tu te souviens, Théo, quand on l'avait vu à Auch, il y avait eu ce phénomène-là. Ouais. Puis je l'avais revu après, elle s'est sortie en salle et c'était pareil.
En salle? Parce qu'en festival, ça arrive, mais en salle, c'est
en,
vrai
en
que...
En salle aussi. Et c'est rare, les films comme ça, où à chaque fois, il y a un tel engouement que les gens se lèvent, applaudissent, etc. Et moi, j'en garde un souvenir assez fort pour ça.
Mm-hmm. Ok.
Ok, bon, dernier extrait. Petit piège, parce que ce n'est pas un film, c'est une série.
She's my cousin.
Tu as.
Je sais pas si je dois le dire, peut-être que tu peux en mettre un peu plus. C'est facile.
Vous l'avez, vous? Petit indice.
It is Laura Palmer.
Le piège, c'est que tu l'as pas mis à l'envers en fait.
Bah oui. Alors, voilà.
Ah,
attention.
C'est ça le piège.
Parce que là, attention, ça va faire un
donc
petit peu mal.
Je vais te le dire.
C'est Twin Peaks.
Voilà, tout à fait. Oui. Twin Peaks, la série de David Lynch et Mark Frost, sortie en 90. C'est le fameux rêve de l'agent Cooper dans la saison 1. Alors, c'est un piège.
Christopher
parce que...
Nolan n'a rien inventé, en fait.
Non, alors, justement. En fait, c'est le seul extrait que j'ai pas mis à l'envers parce que la scène, elle est déjà inversée dans la série. Seulement, pendant le tournage, alors, les acteurs jouent à l'envers. Non, ils jouent à l'endroit, mais ils parlent à l'envers. Ce qui fait qu'en fait, quand tu inverses la scène, ils bougent à l'envers, mais ils parlent à l'endroit. C'est pour ça que là, en fait, on peut les comprendre.
Ça a dû être un vrai bazar d'apprendre son texte à l'envers, quand
ouais.
même.
Et donc, si vous, vous allez chez vous, vous mettez la scène à l'envers, en fait, les personnages vont bouger à l'endroit, mais ils vont parler à l'envers.
Heureusement que tu l'as écrit, hein, parce que...
Oui, j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce passage-là. Pour conclure, et d'ailleurs c'est évoqué dans Tenet, et c'est pour ça que c'est un grand film, mais notre cerveau en fait n'est pas habitué à voir ou à entendre des choses à l'envers, et c'est pour ça qu'il y a toujours un petit peu cet effet malaisant à écouter des choses à l'envers. au même titre que ce blind test.
C'est extrêmement bien résumé.
Mais vous en êtes très bien sorti. Bravo, bravo à notre invité.
Un point pour Christelle, deux points pour Roman. Merci Luc pour ce. Non, t'as un point. Un point par.
Je crois que c'est deux points pour Christelle.
On
et
a trouvé Titanic
pour...
en même temps.
Ah ouais. Bon alors on va dire que c'est Christelle.
Allez,
qui
tout
a
monde
gagné.
A gagné. Voilà.
Mais c'est la première fois que je trouve quelque chose.
Voilà. Moi j'ai toujours rien trouvé. À peu près comme d'habitude. Christelle, moi j'aimerais parler un peu plus de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier? Comment vous êtes arrivée à restaurer des films?
Je pense que je suis arrivée un petit peu là par hasard. J'ai fait des études de cinéma à la fac. Et puis, quand il a fallu chercher un master, je me suis rendue compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était plus les cinémas des premiers temps, donc vraiment le muet, étrangement. et du coup, j'ai fait un master de valorisation du patrimoine qui préparait à plein de types de métiers de valorisation du patrimoine. Et c'est vraiment par les stages techniques que je me suis aiguillée dans la restauration. Mais c'est vrai que ce n'est pas très commun comme parcours, parce que je suis technicienne aujourd'hui alors que je viens de l'université. Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment... en fait, c'est un petit milieu, la restauration. Et c'était pas, aujourd'hui, il y a plus de gens qui s'y intéressent. Mais je ne suis pas si vieille que ça. Mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et du coup, il n'y avait pas vraiment de formation qui était proposée directement. Et moi, je suis vraiment passée par la théorie d'abord et puis la pratique directement dans les laboratoires avec des techniciens. Quoi.
Ça, c'est important d'avoir cette double vision aussi du cinéma. J'imagine que c'est comprendre le cinéma dans son histoire, mais aussi techniquement, comment on scanne une pellicule.
C'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai aussi le côté chef de projet. Je pense que si j'avais été juste technicienne, ça n'aurait pas eu le même impact sur mon travail. Et puis surtout la chance que j'ai eue, donc encore une fois je suis pas si vieille que ça, mais c'était il y a 10-15 ans on va dire, à l'époque il y avait encore des laboratoires qui travaillaient sur la pellicule, aujourd'hui ils ferment un à un et c'est quand même de moins en moins commun, donc j'ai eu la chance d'être formée par des gens qui avaient vraiment fait ça toute leur vie, qui avaient touché, scanné, nettoyé des pellicules toute leur vie, qui connaissaient vraiment ça, sur des machines très vieilles aussi, dont beaucoup ont disparu aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était vraiment un bon timing pour ça. Aujourd'hui, c'est vraiment très restreint la photochimie.
Oui, mais il y a
France.
Encore des films qui se tournent en pellicule. Moi, j'ai l'occasion de faire des tournages en pellicule. Et je pense qu'il y a aussi ça qui permet de garder des laboratoires photochimiques.
C'est la seule raison. Sinon, tout aurait disparu, je pense. Mais après, c'est pas le même travail de production de films et de restauration. Mais oui, en effet, le fait que des réalisateurs tournent encore en pellicule maintient...
Parce que j'imagine qu'on scanne une pellicule de tournage avec les mêmes matériels que pour scanner une pellicule en restauration.
Plus ou moins. Mais j'ai fait ça aussi. J'avais fait du montage négatif encore sur des films récents. Et c'est un peu plus... Ça a un peu évolué quand même. Mais on coupe et on colle et on fait des collures dans les pellicules.
On sait ce que c'est maintenant.
Luc, t'allais dire quelque chose ?
J'allais dire quelque chose, mais en fait, je connais pas l'ampleur de votre collection, mais il arrivera forcément un moment où vous n'aurez plus de matériel à restaurer. En fait, du coup, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des dons ? Est-ce que des gens vous apporter des...
On reçoit toujours des dons, on fait toujours des appels à des personnes qui auraient du matériel et qui voudraient le restaurer ou même juste qu'il soit valorisé d'une certaine manière. Parce qu'en fait, la collection est énorme et on n'a pas du tout tout restauré, et puis on restaurera pas tout, parce qu'il y a des films qui n'ont pas vocation forcément à être restaurés. Ça coûte tellement cher de lancer un projet de restauration qu'il faut vraiment avoir un financement derrière et faire des demandes particulières. Il y a plein de films qui en fait sont en état correct et qui peuvent être projetés sans être forcément restaurés. Et donc ça, c'est un travail vraiment de valorisation globale de la collection. Donc on a quand même beaucoup de projets de restauration encore. D'ici plusieurs années, les outils auront encore évolué. Donc, on pourra faire encore plus de choses.
Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de hangars dans le monde avec des pellicules qui attendent d'être...
Alors, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup. C'est vraiment le... On vient de sortir un film, d'ailleurs, qui est lié à Lobster, qui est distribué par Théâtre du Temps, qui s'appelle The Sun City, qui parle de ça, d'une collection retrouvée et... par hasard et qui comportait énormément de films, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a peut-être moins de hangars aujourd'hui, puis surtout les films, ça fait quand même plus de 100 ans, donc si c'est les premiers films, ils risquent d'être plus être en très bon état. Mais parfois, il y a des miracles, parfois on retrouve une pellicule qui a plus de 100 ans et qui est intacte, et on ne comprend pas pourquoi scientifiquement, mais ouais. Et puis bon, parfois il n'y a plus rien du tout alors qu'elle est beaucoup plus récente. C'est un peu une loterie.
Moi, j'adore aller voir des films encore projetés en 35 parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'encore très vivant dans la projection. Ouais, voilà, je suis vieux, jeu, etc. Non, mais enfin, j'ai encore quelques cinémas à Paris, ouais. Le Christine, le Champeau, la Filmo, qui proposent encore des copies 35. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous affectionnez aussi ou finalement vous dites que c'est en numérique, c'est tout aussi bien?
Ah bah non, moi évidemment, j'adore les projections 35 et je suis vraiment contente qu'il y en ait encore, même si ça se réduit de plus en plus. Mais nous, en fait, on fait même un travail de retour sur film.
C'est une question que j'allais poser. Mm-hmm. Du coup,
Non, c'est super important. Déjà parce que c'est le seul moyen de conservation viable. On sait aujourd'hui que ça dure plus de 100 ans un film sur une pellicule parce qu'on en a la preuve concrète. Donc si on veut sauvegarder une restauration aujourd'hui et ne pas avoir peur de toutes les évolutions numériques qu'il va y avoir dans les dizaines, vingtaines, trentaines prochaines années, au moins, on sait qu'on met un film sur une pellicule et qu'au moins, dans 100 ans, il sera toujours, a priori, en bon état. Encore mieux s'il est bien conservé.
Oui, parce que finalement, pour voir une pellicule, il faut des yeux. À la limite, une loupe, exactement. Un projecteur, c'est pas compliqué. Alors qu'un disque dur, ouais. Peut-être que là, on peut plus, presque c'est plus faire de disquettes ouais. Maintenant. Donc
c'est
j'imagine
très complexe, c'est très coûteux, la conservation numérique. Faut changer très souvent de support pour être sûr que les fichiers soient pas corrompus. On le fait aussi, hein. On fait les deux, en fait, pour les films restaurés. Mais c'est vrai que la pellicule, on a déjà un recul sur à combien de temps ça peut durer dans le temps.
C'est pour ça qu'au CNC, pour le dépôt légal, en tout cas des films oui, qui sortent actuellement, exactement. Il y a toujours besoin d'une copie photochimique ouais. Parce qu'on sait conserver, c'est quelque chose qu'on sait faire.
Ouais.
Est-ce qu'on peut imaginer, je me demandais, dans quelques années, qu'il faille restaurer de la même manière des fichiers numériques? Parce qu'ils ont... Alors, bien, effectivement, le fichier numérique ne s'altère pas en lui-même s'il est copié d'une bonne manière, mais par exemple, pour l'adapter à de nouveaux moyens de diffusion ou des choses comme ça.
Ouais, c'est...
Est-ce que vous le faites ou c'est plutôt
non,
quelque chose qui arrivera?
Non, mais du coup, on a des supports de stockage qui doivent être renouvelés et surveillés et contrôlés. Je crois que c'est tous les 5 ans qu'on doit vérifier que tout est toujours bien conservé et parfois changer de support au bout d'un certain temps. Mais ça se posera puisque aujourd'hui se pose la question de comment on restaure des films qui ont été tournés sur bande, comment on restaure une VHS, ce qui est horrible, ce qui n'est pas possible. Enfin, ça se posera forcément un moment, je pense, ouais. L'essentiel pour l'instant, c'est de vraiment être au fait de toutes les évolutions techniques et être sûr qu'en fait, on aura les lecteurs toujours pour lire les bandes de sauvegarde. Quoi.
Parce qu'il y avait par exemple beaucoup de conservation sur des cassettes bêta, par exemple. Ouais. Il n'y a plus de lecteurs. Sony a arrêté de fabriquer les dernières cassettes il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est une question de tous les jours. Il faut se tenir au courant, en fait, technologiquement,
ouais,
des évolutions.
Ah oui, bien sûr. Et oui, c'est pour ça que les pellicules, c'est incroyable, parce que ben là, on est à plus de 100 ans et on peut toujours les lire, on a toujours des moyens de les lire. Les VHS, il faut trouver quelqu'un qui a un magnétoscope encore aujourd'hui, ce qui est quand même rare.
Un petit peu rare. Est-ce que la restauration, c'est aussi une manière de refaire vivre un film, de lui proposer une deuxième sortie, une deuxième vie? Je pense par exemple à une très belle restauration qui est La Piscine de Jacques Deray. Mmh. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a été restauré par SND et qui est ressorti en 2019 et présenté au Festival Lumière de Lyon. Donc la restauration, c'est aussi remettre en avant le patrimoine cinématographique?
Bah, complètement. C'est même le seul intérêt, j'ai envie de dire. Enfin, c'est super, parce que sinon, c'est de la conservation. De travailler pour conserver le film dans le temps, mais le but, c'est de le valoriser, quoi. C'est un peu notre adage à Lobster, c'est que le but, c'est que ce soit vu, quoi. Le plus important pour un film, c'est qu'il soit vu par des spectateurs, sinon dans une boîte, il n'a aucun intérêt. Donc c'est ça qui est génial avec la restauration, c'est qu'on peut proposer quelque chose qui va être un compromis, c'est-à-dire que c'est un vieux film, mais il est remis au goût du jour pour que le public d'aujourd'hui puisse l'apprécier et ne soit pas complètement choqué par énormément de défauts qui auraient pu se...
Survenir dans le ouais. temps. Et surtout, toujours sur La Piscine, ils avaient déjà fait une première restauration en 2007, ils en ont refait une en 2019 parce que les techniques de scan, de fichiers ont évolué.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'en fait, la restauration, un film restauré, c'est jamais une copie définitive. On peut toujours re-restaurer derrière en fonction des moyens qui arrivent.
Jamais. Et d'ailleurs, on essaye de. C'est pour ça qu'on shoot sur pellicule et qu'on sauvegarde aussi en numérique. Et nous, on sauvegarde pas seulement la restauration finale, mais aussi des étapes clés de la restauration, notamment les scans bruts des pellicules et ensuite l'étalonnage par exemple, etc. Pour se dire que peut-être les outils de restauration pure, c'est-à-dire enlever les poussières, enlever les rayures, vont peut-être super évoluer dans les prochaines années, mais qu'on n'aura plus la pellicule physique parce que peut-être d'ici là elle aura été détruite ou décomposée. Et puis on aura quand même les scans bruts de cette époque. Donc pareil, les scans auront sûrement évolué, mais si on repart d'un scan brut et qu'on utilise d'autres outils de restauration, peut-être que la restauration sera encore mieux dans 10 ans.
Ouais, donc il faut prévoir en disant peut-être que ça va évoluer, donc il faut se garder un maximum de marge de manœuvre.
C'est un éternel recommencement, quoi.
Bah, merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants après What a Life de Scarlett Pleasure, qui est dans la bande originale du film Drunk de Thomas Winterberg, qui est actuellement en salle.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay that we living this way. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.
Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris, c'est l'heure du magnéto d'Auroro.
Oh putain, moteur !
Parlez sereinement dans les petits trous !
C'est à toi.
Bravo Ben.
Bonsoir, alors moi aujourd'hui je vais vous parler des films de l'enfance, ou plutôt j'ai enregistré les témoignages de trois personnes autour des films de leur enfance, ceux qui les ont marqués, dans quel contexte ils les ont vus et ceux qu'ils en retiennent encore aujourd'hui. Jean est né en 1993 et a grandi à Paris. Hans, d'origine allemande, est né en 1961 et a grandi en Allemagne, au Brésil et en Italie. Et Nicole est née en 1936 et a grandi à Souvigny en Auvergne. Avant toute chose, je vais vous poser la question à vous, chers Christelle, Théo et Luc. La première question que j'ai posée à Jean, Hans et Nicole. Est-ce que vous auriez là le souvenir d'un film qui vous a vraiment marqué pendant votre enfance ?
Alors moi, le premier film que j'ai vu en salle avec ma grand-mère, c'était La prophétie des grenouilles.
Ah oui, moi aussi, voilà. Trop bien.
Je crois que c'était mon premier, donc c'est mon premier souvenir, vrai souvenir de cinéma. Christelle ?
Moi, je me souviens d'un film que je regardais en boucle, j'avais la VHS et pareil, je le mettais en permanence. Ça s'appelait My Girl, c'est un film américain. C'est avec Dan Aykroyd, je ne sais pas prononcer son nom, mais l'acteur de Ghostbusters. Et du coup, je ne connais même pas le réalisateur ni le nom de l'actrice, mais je sais que je le connais par cœur. Et je sais qu'il a un petit retour en ce moment, j'ai vu pas mal de gens en parler. Donc,
ah, super.
C'est très triste. Ah, c'est avec Macaulay Culkin aussi, et c'est très triste. Oh. Voilà.
Et lui, peut-être.
Moi, je voulais dire le roi et l'oiseau pour faire genre, mais en fait, c'est la trilogie Star Wars en cassette que j'ai gardé en boucle chez mes parents à en vomir, quoi.
Ah oui, d'accord.
Enfin, métaphoriquement. De façon métaphorique, enfin, j'ai pas vraiment vomi dans mon salon.
Ah, merci pour la précision, Luc.
Place maintenant aux réponses de Jean, Hans et Nicole.
Celui que j'ai vu plein de fois parce qu'on avait la cassette et je l'ai vu tellement de fois que mon père il me l'a confisqué parce qu'il est rentré du boulot et j'étais encore en train de le mater. Il a dit bah, ça, on arrête là. C'était Maman, je m'occupe des méchants, qui est le Maman, j'ai raté l'avion 3 quand il n'y a plus le même gamin. Celui-là, je l'ai vu en boucle. Et sinon, j'avais pas le droit de voir plein de films, j'avais pas le droit de voir, comme Alien ou Matrix. Et mes cousins, eux, ils avaient le droit de tout voir. Et donc, une nuit, un soir chez eux, j'ai regardé Alien. En fait, les films étaient bien parce que j'avais pas eu le droit de les voir. Parce que sinon, j'avais pas. Enfin, c'était des bons films, mais je n'ai pas gardé juste même plus ce qui se passe. Mais voilà, c'était super parce que j'avais pas eu le droit de les voir.
C'était un documentaire, c'était. Mon père avait porté un film parce qu'à l'ambassade d'Allemagne à Rio, il pouvait emprunter des films comme ça, donc parfois il a porté une bobine de films comme ça. Donc au salon, on faisait une sorte de séance cinéma. Et ce documentaire, c'était un documentaire sur des animaux, sur le parc, une réserve naturelle d'animaux. La Serengeti ne doit pas mourir. Die Serengeti soll nicht sterben. Et je garde toujours un souvenir. Ça m'a marqué les animaux, les ralentis qui avaient été faits à cette époque-là.
Alors, je me souviens d'un film que j'aimais beaucoup. C'était Tarzan. Parce que j'étais un peu garçon manqué, tu vois, je grimpais toujours quelque part, et Tarzan, ça m'avait beaucoup plu. Et puis à la fin du film, il y a un monsieur, avec une grande barbe, je me souviens, et qui disait, et la suite à la prochaine fois. Voilà, et moi je devais avoir 9-10 ans, tu vois. Et je guettais le cinéma tous les jours, à chaque fois que j'allais à l'école, je passais devant, pour voir s'il y avait une suite. Il n'y a jamais eu de suite.
Alors voilà, je suis un peu désolée pour Nicole qui enfin a attendu cette suite pendant des années. C'est pas chouette d'avoir menti comme ça dans le film. Et sinon, parce que je voyais bien qu'il y avait une différence chez Nicole entre ces gens dans leur consommation de films pendant l'enfance et que c'était très récent finalement en fait, de pouvoir revoir 5 fois un film comme moi. Et donc j'ai essayé de connaître les rituels, le contexte dans lequel tous les trois avaient l'occasion de voir des films.
Un souvenir, tu connais pas?
Ben,
il y avait les promenades, c'est une grande place en bas de souvenirs, et il y avait le cinéma ici. Et il passait un film tous les 8 jours, je pense.
On n'allait pas trop au cinéma, en fait. On allait de temps à autre. Il y avait les James Bond, une ou deux fois, qu'on est allé voir. Et ensuite, c'était des films plutôt à la télé, des séries comme Zorro. Nous, on n'avait pas de télé, donc on allait dans un club où il y avait une télé.
Mon vrai bon souvenir, je pense, de film, en fait, c'était l'été, on partait en vacances à la plage et il y avait un magasin de location de DVD. On allait avec mon père et il y avait toutes les pochettes. Tu choisissais le film en fonction de la pochette et de la petite histoire derrière. Nous, on nous louait 1, 2 ou 3 et après, on regardait ces films-là.
Voilà, nous, chez moi, on allait acheter une cassette à la brocante avec ma maman ou alors on allait au vidéoclub avec mon papa. Et dans les deux cas, je me souviens qu'on était trop contents d'y aller et que c'était un peu la fête. Mais je suis pas sûre de savoir si je me souviens plus des films ou du contexte, en fait, dans lequel je les ai vus. Nicole m'a aussi parlé d'un film qu'elle avait beaucoup aimé, Mirage, d'Edward Mitrick, avec Gregory Peck, qu'elle trouvait très beau garçon, qui perd la mémoire après un accident et elle l'a revu l'an dernier. Et elle, c'est vraiment du film dont elle se souvient, alors que Hans, c'est parfois plus du contexte.
Oui, je me souvenais de tout. Parce qu'à un moment, il est à table et avec sa fourchette, il fait des traits sur la nappe. Et ça lui provoque un choc. Et le choc, après, on comprend. C'est parce que autrefois, il est arrivé quelque chose sur la neige avec des skis. Donc les rails, tu vois, les rails de la fourchette, ça lui rappelait les skis, tu vois, les traces de skis. Voilà.
Une fois on est au cinéma à Naples, je ne sais plus où, en Italie en tout cas, c'était un brouhaha pas possible, tout le monde mangeait des trucs, mais c'était tellement vivant, c'était, voilà, on garde un bon souvenir, mais plus par, c'est pas le film dont je me souviens le plus, c'est cette ambiance.
Donc Nicole m'a dit qu'elle enfant c'était l'aventure, les acrobaties qui lui plaisaient dans Tarzan. Hans aimait bien Zorro parce qu'il voulait lui aussi sauver les plus démunis en restant incognito. Et Jean, ça pouvait être l'univers un peu fou, un peu décalé d'un film. Mais finalement, dans son cas, il réalise aujourd'hui que c'est surtout de détails qu'il se souvient, que ce sont des détails précis d'un film qui l'ont marqué et qui lui ont plu.
avec Maman jette à l'avion 3, c'était vraiment ça, parce que c'est plein de textures, c'est plein de... il a le bout du nez gelé, la manière dont le pantalon est mouillé, la manière dont il tombe, la matière qu'il y a par terre, les billes, les trucs. Et donc, quand tu revois ça, ça me ramène immédiatement à genre « Ah, je me souviens comment il était, comment elle a mal, comment il y a l'électricité qui passe sur le visage. »
Voilà, moi aussi j'ai l'impression de me rappeler de plein de petits détails comme ça quand je revois un film, enfin de matière quand je revois un film que j'ai vu enfant. Et j'aimais bien la façon dont Jean arrivait à le formuler, alors je lui ai demandé de m'expliquer ce qui, d'après lui, était propre aux enfants dans leur façon de voir un film.
Ouais, je pense qu'il y a plein de films qu'on comprend mieux parce que juste on s'attache aux émotions, aux textures, aux effets que ça nous fait. Et il y en a plein qu'on comprend moins bien aujourd'hui parce que on s'attache à la vraisemblance où on essaye de se comparer, on se compare plus plutôt que de prendre le personnage comme qui il est. On se dit genre moi qui suis et lui qu'est-ce qu'il fait et à quoi ça ressemble.
Voilà. Aujourd'hui, retrouver un film que j'ai adoré enfant me donne l'impression de retrouver un terrain familier, comme un quartier ou une rue dans laquelle j'ai habité. Et en tous les cas, même si le film ne me plaît pas forcément, j'adore le retrouver. Et j'ai eu l'impression que Jean, Hans et Nicole ont eu ce même plaisir dans le fait de m'en parler, de partager ce souvenir. Et Hans m'a même dit mot pour mot qu'il était content de restaurer cette mémoire. Et j'ai trouvé ça super, parce que même si on ne sait pas tous restaurer un film, on peut au moins en restaurer la mémoire.
Allez.
Merci Roman, c'est très beau. Et vous dites peut-être aussi, quand vous restaurez des films, Christelle, que vous permettez à des gens qui l'ont vu au moment de sa sortie de le redécouvrir.
Ouais. C'est... Bon, alors ça ne marche pas pour les muets en général, oui, mais,
bon,
pour les films,
mais pour le film de Guigil, par exemple.
Ouais. Et c'est arrivé que même des techniciens ou même parfois des réalisateurs soient hyper heureux de revoir... leur film avec un nouvel œil, en fait, parce que sans doute que la dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était sur un support sûrement...
Une VHS,
voilà,
on peut
la VHS, passer. C'est vraiment l'enfer.
C'est ouais. Oui, moi, je confirme
non,
que
ça a son charme, mais c'est...
Ça se détériore quand même assez vite.
C'est le pire support.
Avant de se quitter pour les dernières minutes de l'émission, c'est le moment de faire quelques recommandations, les recommandations de l'équipe. Mm-hmm. Luc, je te laisse commencer.
Pas de jingle de Benjamin.
Non, pas de. Il n'y avait pas de jingle.
Et c'est pas
foulé,
hein.
Ouais.
Cinéma, encore une fois, je suis allé voir Lux Eterna, dernier film de Gaspard Noé. Alors, faut savoir que j'adore aller voir les films de Gaspard Noé au cinéma.
Est-ce que t'adores aller les voir pour les détester ou est-ce que t'aimes vraiment?
Non, je vais les voir parce que à chaque fois que j'en ressors, j'ai toujours l'impression d'être complètement défoncé et celui-ci ne déroge pas à la règle. Tu l'as vu Théo ou pas?
Non,
ça devrait te plaire parce qu'en fait c'est la nuit américaine mais version satanique. En fait ça se passe sur le tournage d'une réalisatrice et qui vire un peu au cauchemar. En fait elle va être de plus en plus conspuée par son équipe au point que les producteurs en viennent à fomenter un coup d'état en fait pour la virer. Et je parle de la nuit américaine parce qu'il y a cette même démarche de casser un petit peu l'image féerique qu'on peut avoir de l'industrie du cinéma. C'est le négatif de ce qu'un acteur ou un réalisateur peut raconter dans les médias quand il fait la promo de son film, comme quoi tout le monde s'est très bien entendu, tout le monde croyait au projet, il y avait une véritable osmose. Et bien là, non, ça ne l'est pas tellement. C'est une vision qui est un peu déprimante du cinéma parce qu'il y a beaucoup de cruauté. Alors bien sûr, c'est exagéré. Mais il y a quand même un fond de vérité que je trouve assez intéressant. Fait notoire, c'est un moyen métrage qui dure 50 minutes. Et c'est justement un format qui contribue à sortir du film un peu hébété parce que c'est normalement au bout de 50 minutes qu'un scénario décolle vraiment au niveau de la structure d'un film. Et là, en fait, non, il faut accepter de faire avec ce qu'on a vu. Sachant que le dernier quart d'heure est assez éprouvant, ça part en vrille. Et d'ailleurs, le film est déconseillé aux épileptiques, parce que c'est vraiment... c'est pour ça qu'il faut le voir au cinéma, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on sort complètement défoncé et qu'on erre un peu dans les rues. Et j'ai vu au Max Linder.
Très belle salle,
très belle salle. Et en plus, qui, pendant une ou deux semaines, ont diffusé uniquement ce film tous les jours. Et c'est assez audacieux comme programmation, je trouve. Voilà, Lux Eterna, je pense qu'il est encore diffusé un petit peu,
c'est
donc
possible, oui.
Dépêchez-vous, ça vaut le coup.
Merci Luc, moi pour ma part je vous conseille d'aller voir une exposition, l'exposition Cindy Sherman à la Fondation Vuitton. C'est une très belle rétrospective du travail de cette artiste, c'est une photographe qui est l'unique modèle de ses portraits. Elle incarne des personnages, elle se déguise, elle se maquille et on voit pas sur les tirages l'auteur elle-même, on voit des clowns, des mannequins aux habits mal ajustés ou même des actrices de cinéma. C'est d'ailleurs cette dernière catégorie, celle des actrices de cinéma, qui m'a donné justement envie de parler de cette exposition.
Je crois que les films sont ma plus grande source d'inspiration. Et la plupart de mes films préférés sont des films d'horreur.
Cindy Sherman est inspirée, hantée par le cinéma, et elle fait dans les années 70 deux séries, celle des cinéstyles, des portraits librement inspirés de l'imaginaire du cinéma de ces années, et des rear screen projections, c'est-à-dire des photographies sur lesquelles elle se prend en photo avec un fond projeté, comme pouvait le faire Hitchcock dans ses nombreuses scènes de voiture. Et donc c'est une exposition, une très belle exposition, je le disais, qui retrace le travail d'une artiste qui n'a jamais cessé de se prendre elle-même en photo. Et même si son mode opératoire est quasiment le même depuis ses débuts, elle a cessé d'évoluer chaque photo après l'autre. Elle s'est inspirée, nourrie par le cinéma, et comme tout comme le cinéma, elle a pris le virage du numérique, délaissant peu à peu la pellicule qu'elle affectionnait pourtant, parce que le numérique lui permet de travailler jusqu'au bout de la nuit et de voir des résultats très, très rapidement. Voilà, c'est une très belle exposition que je vous invite à aller voir. C'est à la Fondation Louis Vuitton et c'est jusqu'au 3 janvier 2021.
Super.
Romane,
oui. Tes alors recommandations... Moi, c'est un livre cette fois-ci.
Ah, un livre,
que
très
je
bien,
vous recommande. De Chez Soi, une odyssée de l'espace domestique de Mona Chollet. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je l'ai lu cet été. Et en fait, bon, déjà, il résonne beaucoup en ce moment, surtout qu'on va sûrement être bientôt reconfiné. et après avoir passé 3 mois chez moi. Et ouais, ça parle de l'amour d'être chez soi, du fait d'être casanier, c'est une réflexion sur tout, enfin sur l'art d'être aussi de faire un chez soi, ou la pression qu'on peut avoir quand on reste tout le temps chez soi de pas réussir à faire des choses, alors qu'en fait on peut faire des choses chez soi aussi. Et enfin c'est beau, ça m'a vraiment ça m'a remis bien en question, et j'essaie de le conseiller à tout le monde, parce que dans ce livre, mais à chaque personne que je rencontre, il y a un petit aspect qui, pour moi, mais il faut qu'il le lise, mais pour chaque personne c'est différent et ça peut être un chapitre différent, et donc je vous le recommande vraiment.
Ok, tu peux nous rappeler les références?
Ah oui,
Non, les références du livre.
Tu m'avais demandé l'année.
Non.
Mince. Oui, c'est Chez Soi de Mona Chollet.
Christelle, est-ce que vous, il y a quelque chose qui vous vient, une recommandation à faire, quelque chose que vous avez vu récemment qui vous a marqué peut-être?
Je recommande aussi Chez Soi, qui était aussi ma lecture du confinement.
Non, est-ce que vous aimez aller en salle, toujours voir des films? Est-ce qu'il y a des films récemment qui... ou que vous avez envie d'aller voir, pas aller de Drunk
tout
à l'heure?
J'ai très envie d'aller voir Drunk, que j'ai pas encore vu. Je ne sais pas si j'irai voir Tenet, mais parce que j'ai eu trop d'avis contradictoires.
Hein.
mais Drunk, oui, clairement, c'est celui que je veux voir avant qu'on se fasse peut-être confiner. Oui. Et moi, j'attendais vraiment beaucoup l'Expo Matisse aussi qui arrive, donc j'ai hâte d'y aller.
Ouais, elle a l'air bien.
Faut y aller vite, je pense.
Très bien. Et puis vous pouvez aussi retrouver les sorties des 3 films de Guy Gilles chez Lobster Film.
Ça
en
c'est
édition...
parfait en confinement. Le triptyque des 3 films de Guy Gilles qui sont Au pain coupé, Le clair de terre et L'amour à la mer.
Voilà, 3 films
en DVD chez Lobster,
à découvrir. Merci beaucoup Christelle d'avoir été avec nous dans Grand Format. Merci Romane, merci Luc. À la réalisation ce soir, Clément Joss, merci beaucoup.
Merci Ben pour les jingles.
Et merci à Benjamin pour les jingles. Prochaine émission dimanche 28 novembre à 20h. En attendant, retrouvez les podcasts sur Radio Campus Paris et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram. Bonne soirée.